Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 3, chapitre 5, Urgence. Le bâtiment qu'on avait attribué à Irène et aux enfants spiritualistes avait appartenu à la guilde de la médecine et servi d'hôpital. Les malades, en albâtre, restaient le plus souvent à domicile, secourus par l'esprit. Mais l'afflux de natifs de ville basse, provoquant des maladies nouvelles et grossissant les rangs des malades dépendants, avait conduit la cité à ouvrir un hôpital plus vaste et ce modeste bâtiment avait été désaffecté. Autour d'une vaste cour intérieure, où Irène rassemblait chaque jour un peu plus de fidèles à l'écoute des 10 essentiels, des corridors en arcade desservaient de petites chambres gracieuses et inondées de soleil. Keller aperçut Marvan, qui s'approcha de lui amicalement. « Sans mémoire ?» le salua-t-il. « J'ai retrouvé la mémoire, et un nom. Je m'appelle Keller, désormais. »« Tu viens voir Irène et Daïla ?»« Oui. » Marvan le conduisit jusqu'au bout du corridor. Il commençait à faire froid, et les courants d'air qui passaient par les arcades les atteignaient jusqu'aux os. « C'est ici. » L'enfant disparut après un salut silencieux, et Keller avala sa salive, un peu ému et désorienté au seuil de cette chambre. Il frappa doucement à la porte, et la voix d'Irène retentit aussitôt comme si elle l'attendait. « Entre !» Il poussa la porte et pénétra dans l'atmosphère calme et lumineuse de la chambre, où la jeune mère, un sourire assouvi sur les lèvres, s'occupait à langer un minuscule bébé. « Vois, Keller, je te présente Daïla. » Keller s'avança, étreint par une émotion vive et hybride, où la souffrance se mêlait à une sorte de joie. La petite fille était si frêle, sa peau si transparente et veloutée, qu'elle semblait moulée dans une chair moins dense, plus légère que celle des humains. « La chair des anges, » pensa-t-il confusément. Et il avança son doigt brun auprès de la main délicate aux longs doigts effilés, dont les petits ongles ressemblaient à des coquillages. La main, avec une hésitation qui n'était peut-être que de la maladresse, agrippa le doigt et le serra, et Keller, en même temps qu'il ressentait brusquement et sans rémission possible un désir infini de protéger cet enfant, pensa à Eleanor, à Artus qu'il n'avait pas pu étreindre le jour de sa naissance, et à l'autre, là-bas, dans le noir. Il retira son doigt avec une légère brusquerie et se rendit compte qu'Irène l'observait, pénétrante. « Tu dois me parler, Keller, mais je vais commencer car je n'ai qu'une chose à te dire. Aime-la, dès à présent et pour toujours, car elle n'aura pas d'autre mère qu'à Eleanor. » Keller fronça les sourcils. Le visage insolite et irrégulier d'Irène avait pris une sorte de majesté. Était-ce d'avoir donné la vie et présidé au mystère insondable de la naissance? Ou bien était-ce la proximité de sa mort dont elle parlait à mots couverts et dont à Eleanor lui avait déjà parlé? Keller hocha la tête. « À présent et pour toujours, » répéta-t-il, « je serai son père. » Irène parut soulagée et sourit d'un air presque enfantin. Puis son visage labile redevint grave. « Tu as de sombres nouvelles. » « Oui, l'esprit qui hante la montagne a essayé de tuer mon fils cette nuit. » « Comment ?» Il a possédé son iguane et tenté de l'étouffer. Irène se mit à bouger les yeux en tous sens, très vite, suivant probablement le cours de ses idées qui semblaient fuser à toute vitesse dans sa tête. L'esprit de la montagne, celui qui possède les gens et celui qui a enlevé ton enfant ne font qu'un. Il l'a enlevé pour le posséder, Keller. Keller détourna les yeux, chassant de son esprit cette pensée par trop douloureuse. Mais pourquoi veut-il tuer Artus ? Artus a un esprit beaucoup plus puissant que nous tous. Il représente un danger pour l'esprit de notre ennemi. Il a 3 ans, se révolta Keller. Mais il va grandir, et son esprit va grandir aussi. Il veut sa mort, et recommencera ses attaques, aujourd'hui, demain, dans 8 jours. Cette tentative n'est pas un hasard. Non, et il ne se contentera pas de sa mort, Keller. Il voudra la mienne aussi. Pourquoi ? Pour terminer son œuvre de destruction du spiritualisme, pour m'empêcher de le démasquer et de le contrer. Keller avait l'impression de parler à un oracle. Va-t-il aussi s'en prendre à Eleanor ? Irène eut un très léger rétrécissement de ses pupilles, comme si la question la heurtait. Non. Pourquoi ? À Eleanor le protégera, Elle protégera son enfant. Elle ne croira jamais en sa possession. » Irène s'arrêta un moment et considéra Keller d'un œil triste. « Auras-tu la force de tuer la chair de ta chair, Keller, quand l'esprit mauvais sera piégé dedans ?» Keller se sentait de plus en plus mal à l'aise et ne savait que répondre. « Tout cela n'est que conjecture, Irène. Rien n'est conjecture. Il en sera comme je te le dis. Tu élèveras Daïla parce que je mourrai des œuvres de Sornar. Artus mourra peut-être aussi, et tu seras mis face à ce choix. Tu es mon propre fils. C'est la seule façon de détruire Sornar, dit Irène d'un ton presque fanatique. Il faut le prendre au piège de ce nouveau corps, attendre qu'il y soit ancré solidement, qu'il soit à nouveau mortel, et le tuer à ce moment-là. » Le visage d'Irène était maintenant crispé en une contraction de haine. Son visage tordu, ses yeux brillants et noirs, achevaient de plonger Keller dans le malaise. « Ne le dis pas à Eleanor, » souffla-t-elle en lui prenant le bras avec une force surprenante. « Elle t'en empêcherait. »« Je dois aller voir au mont, » coupa Keller maladroitement. « Je dois partir. » Irène, dont le visage était redevenu limpide, lui sourit amicalement. « Merci de ta visite, Keller, plein de mémoire. Rappelle-toi chaque mot que je t'ai dit aujourd'hui. » Sa voix de verbe avait tressailli, à peine, et Keller sut qu'elle l'avait contraint. Il ne pourrait pas oublier, si fort qu'il le désira, cette conversation troublante. En partant, il jeta un dernier regard sur la petite créature innocente qui se tortillait dans un déluge de linge blanc. « Ma fille, » pensa-t-il, dans une tentative pour canaliser par des mots l'émotion brûlante qui coulait en lui. « Adieu, Irène, puissent tes prophéties ne jamais se réaliser. » Irène sourit et haussa les épaules. « Chaque être marche vers sa fin, » dit-elle simplement. Pendant ce temps, Aelenor et Artus patientaient encore dans le froid vestibule de Daphnae, qui n'était pas levé, ou qui avait plus probablement décidé de les faire attendre. À l'instar de beaucoup de natifs de Villebasse ayant récemment accédé au luxe, Daphnae s'était offert les services d'une servante, une jeune femme terne et maladroite qui les avait accueillis. Aelenor avait du mal à contenir son exaspération face à ce dévoiement des idéaux de la Révolution. Les murs avaient-ils été détruits pour en reconstruire d'autres? Pourquoi créer une classe de domestiques lorsqu'il était possible de fonder une société égalitaire? Ces questions la dépassaient, et elle mesurait la distance infinie qui la séparait de la jeune femme qu'elle attendait. Les hauts citoyens dans l'ancienne Albâtre n'avaient pas de servants, peut-être parce qu'une telle coutume aurait exigé la présence perpétuelle de bas citoyens. Toujours était-il que les hauts citoyens s'occupaient eux-mêmes de leurs tâches domestiques, considérées comme les exercices spirituels ou sportifs, comme une gymnastique nécessaire à l'hygiène de vie et à l'ordre. Ils ne s'en plaignaient pas d'ailleurs, et se délassaient souvent à ces activités répétitives et manuelles, en écoutant un membre de la famille jouer d'un instrument ou lire un texte à voix haute. Artus, qui paraissait aujourd'hui tout petit et parlait peu, resta tout le temps que dura cette attente dans les bras de sa mère, serré contre elle, apaisant son angoisse en jouant de ses petites mains avec les boucles de ses longs cheveux. Enfin, Daphnae parut, dans un déshabillé presque transparent que couvrait une cape de fourrure fauve. Ses cheveux roux, emmêlés et attachés à la diable, achevaient de lui conférer l'apparence d'une reine sauvage. « Voilà une visite bien matinale et bien inattendue, » remarqua-t-elle de sa voix ironique. Aelenor ne savait comment faire pour éviter la joute verbale. « Excusez-moi de vous déranger ainsi au saut du lit, Daphnae, mais je suis venue vous trouver juste avant d'aller voir Ruben, afin de vous parler d'un sujet grave. » Daphnae la considéra de pied en cap, avec une certaine insolence, prit une inspiration comme si elle allait parler, puis se ravisa. « Voulez-vous que j'envoie ma servante le chercher ?» proposa-t-elle. « Oui, s'il vous plaît. »« Si le sujet est si grave, ma tenue n'est certainement pas adéquate. Je vous prie de bien vouloir m'attendre à nouveau un moment. »« Frigi, cours chez Ruben et dis-lui de venir sans tarder pour une question d'une extrême urgence. » Aelenor soupira et se rencogna dans son siège, tâchant de se faire plus confortable pour son petit garçon qui avait la tête posée dans son cou. « Artus, » dit-elle tendrement à voix presque basse. « J'ai eu si peur cette nuit. » Elle sentit deux grosses larmes couler dans son cou. « Moi aussi. » Elle le serra plus fort et cette fois les mots se formèrent dans sa tête sans qu'elle les prononçât. Je donnerai ma vie pour toi, et ton père aussi. Nous te protégerons, nous tuerons Sornar. » Les larmes roulaient toujours, plus brûlantes. « Et si vous n'y arrivez pas ?» Aelenor sentait ses larmes monter, des profondeurs de son angoisse, vers ses yeux, et utilisa machinalement l'esprit pour se maîtriser. « Il veut te tuer à cause de l'esprit qui est si puissant en toi. »«
Je ne veux pas être puissant. »«
Je sais, Artus. Peut-être es-tu assez puissant pour fermer ton esprit, pour le cacher au plus profond de toi. Comment ?»«
Je ne sais pas, mais cela te protégerait. »
Artus s'écarta d'elle et la regarda. Il allait parler à voix haute quand des bruits de pas les interrompirent. Ils échangèrent seulement un regard où leur pauvre amour impuissant, qui s'accrochait au moindre espoir, circula entre eux comme le sang circule dans deux parties d'un même corps.
« Que nous vaut l'honneur de ce touchant tableau de famille ? » demanda Ruben.
Aelenor lui lança un regard là. Elle était soudain écœurée de ses phrases assassines, de ses joutes verbales incessantes, de la légèreté enfin si théâtrale de leurs débats au forum ou ailleurs. Elle inspira profondément et attendit que Daphnae les eût rejoints pour s'exprimer.
« Je viens pour vous informer, et pour m'informer en retour. Je ne cherche pas le conflit. »«
Nous informer au sujet de quoi ?» soupira Daphnae en réprimant un bâillement artificiel. « Vous faites bien des mystères. » Aelenor tenait toujours Artus, qui pesait lourd dans ses bras, mais dont elle sentait encore les larmes chaudes dans son cou. « Je serai brève. Tout me porte à penser, extrêmement sérieusement, que Sornar, qui a toujours recherché la puissance spirituelle, a encore accru ses pouvoirs. Il était capable, du temps de la haute ville, de tuer par un simple contact mental. Il a été capable, seul, de massacrer tout un village de gens aguerris à l'usage de l'esprit. Mais maintenant, je parle d'un pouvoir beaucoup plus grand encore. Je pense qu'il est devenu capable, d'une manière ou d'une autre, de projeter son esprit hors de son propre corps et de posséder indifféremment les lieux, les animaux et les gens. » Daphnae éclata d'un rire strident, qu'elle laissa mourir cependant lorsqu'elle s'aperçut que Ruben, loin de la suivre, écoutait Aelenor avec attention et même avec inquiétude.
« Que s'est-il passé pour vous en donner la certitude ? » demanda-t-il.
« Artus est l'une de ses cibles depuis plusieurs mois. Hier, il a possédé son iguane de compagnie pour tenter de l'étouffer. » Daphnae secouait la tête d'un air excédé, comme si cette fable lassait sa patience, mais Ruben ne paraissait toujours pas rire. « Pourquoi nous en informer ?»«
Parce que vous prétendez, comme moi, au pouvoir en albâtre. Parce que si nous pouvions nous mettre d'accord sur ce point, il n'y aurait aucun délai pour préparer immédiatement une expédition sous la montagne. »
À Aelenor, qui caressait toujours machinalement le dos d'Artus, l'entendit distinctement dans sa tête.
« Ils ne t'aideront pas, mais dis-leur que mon esprit est détruit. »
Aelenor ouvrit la bouche comme pour parler, se reprit et lança enfin. « L'esprit était puissant en lui, chancelier. Vous le savez, et c'est pour cela qu'il représentait une menace pour Sornar. »
« Cela est cohérent, » admit le vieil homme prudemment.
« Depuis hier, il fait appel à l'esprit en vain, comme si cette attaque l'avait privé de toutes ses capacités spirituelles. Imaginez un instant que Sornar nous arrache l'esprit à tous. »
Ruben paraissait perplexe et s'efforçait de réfléchir aussi vite que possible.
« Artus, » dit-il d'une voix suave.
Le petit garçon se montra docile et le regarda. Le vieillard fit luire sa pierre frontale assez violemment et projeta son esprit dans celui de l'enfant qui le regardait d'un air farouche.
« En effet, » murmura-t-il, « c'est comme si une vive lumière s'était éteinte. »
« Elle s'est éteinte, » prononça Aelenor d'une voix presque brisée. Ruben la dévisagea et parut un instant sceptique.
« Tout cela est très tragique, » conclut Daphnae, « et nous sommes sincèrement désolés pour vous. Mais de quoi vouliez-vous donc vous informer ?»«
Les pragmatistes sont-ils prêts à prêter main forte à une offensive sous la montagne ?»«
Mais vous êtes folle, » dit Daphnae. « Vous venez de dire que votre ennemi a quasiment les pouvoirs d'un dieu et vous voulez vous jeter dans la gueule du loup ? Très peu pour moi. »
« Je ne vous demande pas de participer à l'expédition, seulement de ne pas vous y opposer. »
Ruben se mit à faire les 100 pas dans le vestibule, où les vitraux faisaient tomber une lumière froide d'hiver. « Combien de personnes ? » ?»«
Le plus possible, une centaine au moins, et le plus possible de natifs de Hauteville ou de guerriers exercés au Sotan. Feriez-vous partie personnellement de l'expédition ? Eleanor le fixa de ses yeux gris, si implacable quand on la soupçonnait de lâcheté. « J'ai déjà perdu un fils, dit-elle. Je ne compte pas me laisser arracher le deuxième. »« Donc vous irez, avec votre compagnon. »« Oui, nous irons, tous les deux. » »« Comme au bon vieux temps, » souligna Daphnae avec un léger sourire. « Écoutez, si nous échouons, si nous mourons tous là-bas, n'est-ce pas tout bénéfice pour vous ? Vous serez libres alors de gouverner Albâtre et de plier l'échine devant Sornar, si telle est votre stratégie. » « Mais si vous gagnez ?» demanda posément le vieillard. « S'ils gagnent, ils seront les héros de la cité, » répondit Daphnae en hochant la tête d'un air désolé. Ils se regardèrent tous les trois. « Je ne peux pas croire que vous fassiez passer vos ambitions politiques avant le salut de la cité, » dit Eleanor. « Nous sommes pragmatiques, » observa Daphnae. « N'est-ce pas justement ce que cela veut dire ?»« La cité n'est pas menacée directement, » continua Ruben. « Votre famille l'est, mais jusqu'à présent pas la cité. C'est une guerre personnelle que vous voulez monter. » Eleanor les regarda l'un après l'autre. Ils n'avaient pas eu besoin de se consulter sur la réponse à lui fournir. Elle était aussi claire que possible, et Eleanor n'allait pas s'abaisser à supplier. « J'obtiendrai qu'on mette cette décision aux voix, au forum. Préparez vos discours. »« Bonne journée, ma chère, » dit Ruben, en faisant un salut protocolaire particulièrement respectueux. À Eleanor, la pierre frontale étincelante de colère rentrée, les quitta sans un mot, son enfant toujours dans les bras, inerte et pesant comme si toute intelligence l'avait définitivement quittée. Lorsqu'Aumont aperçut au loin, au coin de sa rue, les silhouettes agitées d'Aélénor, d'Artus et de Keller, il était en train de contempler la ville du haut de son balcon matinal, exposé plein est. Les rayons pâles nimbaient les arbres humides d'un halo doré, et trouait çà et là les nuages d'un trait timide. Chaque saison avait ses beautés, et l'hiver, dans sa majestueuse mélancolie, n'en manquait pas à Albâtre. Cela faisait plusieurs semaines déjà qu'il avait officiellement quitté ses fonctions exécutives et qu'il n'était plus qu'un citoyen comme les autres. Fervent soutien des idéalistes, bien sûr, et prêt à plaider au forum sur lequel il gardait une main, quand son verbe était en veine. Mais il savourait son absence de responsabilité avec délice, reclus la plupart du temps dans l'aile qu'il avait conservée de son palais. L'envie d'écrire, de coucher sur papier ses dernières années, et de continuer peut-être au jour le jour des chroniques d'Albâtre, avait lentement grandi en lui. Était-ce cela qu'Eleanor et Irène appelaient « l'œuvre » Il lui paraissait qu'il s'était fourvoyé toute sa vie, qu'il avait joué les espions, les révolutionnaires, puis les hommes d'État, avec une égale difficulté, comme il eût endossé des vêtements qui n'auraient pas été à sa taille et qui l'auraient continuellement gêné dans ses mouvements. Il n'était fait pour aucun de ces états, mais la position du chroniqueur, légèrement en dehors du monde, et jetant sur lui un œil serein, abîmé dans sa solitude, lui paraissait aujourd'hui la seule qui pût lui convenir. Après toutes ces années de tentatives et d'échecs, il avait trouvé sa voie. En regardant ses amis qui étaient encore trop loin pour qu'il pût reconnaître sur leur visage les signes d'un trouble inquiétant, il se demanda s'ils avaient trouvé la leur. Eleanor était faite pour gouverner, à son avis, et il ne doutait pas que ce fût là son œuvre. Quant à Keller, c'était un meneur d'hommes, un homme de courage, un ange gardien aux bras puissants, dont l'œuvre ne pouvait se révéler qu'au gré des circonstances. Aumont courut à leur rencontre quand ils furent assez proches et les accueillit sans cérémonie dans sa vaste salle. Il y flambait un feu réconfortant, dont les lueurs mouvantes éclairaient une magnifique bibliothèque de vélin. Eleanor déposa enfin Artus face au feu et fit luire à nouveau sa pierre frontale pour essayer de dominer la colère et la frustration qui s'accumulaient en elle depuis des heures. Elle laissa Keller raconter tout et ajouta son propre résumé de son intervention auprès des pragmatistes. « Ils tenteront de s'opposer à l'intervention, » dit-elle. « Ils ont peur de notre éventuelle popularité en cas de succès. » Aumont, consterné, se retrouva soudainement plongé dans les affres de l'histoire comme dans une eau glacée. Le souvenir de la sombre silhouette qui avait assassiné Emmerich sous ses yeux en un clignement d'œil était resté très présent à sa mémoire et il ne lui fallut que quelques secondes pour endosser à nouveau le rôle qu'on lui demandait de jouer. Il se mettrait à l'entière disposition de Keller pour monter l'expédition. et permettrait à Aelenor de soumettre la décision aux voix, au forum, dès le lendemain. Ces chroniques paisibles semblaient s'envoler feuille à feuille dans le grand tourbillon qui les emportait. L'heure n'était pas, en ce matin d'hiver, aux œuvres personnelles.